Everyday, anywhere, anytime, the Digital Gospel Journal, Ebenezer International, your station.
Familia Pod, sur Ebenezer International.
Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, messieurs, bonjour. La famille. Voilà un sujet qui fait aujourd'hui l'objet de sérieux débats. Au fil des années, à tous les niveaux de la société, beaucoup de voix se sont élevées pour défendre le point de vue biblique de ce qui constitue sa cellule de base, la famille. En dépit des rudes épreuves auxquelles elle est sans cesse soumise, la famille doit vivre et vivra, puisqu'elle fait partie du plan de Dieu, le Créateur, pour l'humanité. C'est aussi pour cette raison que nous vous proposons cette nouvelle série de Familia Pod, en collaboration avec Bible Ouverte. Pour ceux d'entre vous qui ne le savaient pas, Bible Ouverte est un site de l'association Parole Certaine, soutenu par l'Association des Églises Action Biblique de Suisse. Cette première édition de Familia Pod se divise en deux parties. Dans la première, nos intervenants nous parleront de la base de l'unité dans le couple, et dans la deuxième partie, ce sera la nécessité de l'unité, toujours dans le couple. Je suis votre ami Franck Doristil qui vous parle, et tout le long de l'émission, nous aurons des artistes originaires de la Suisse qui nous béniront par de très belles sélections choisies pour votre plaisir. Et sans tarder, nous céderons la place au groupe Jeunesse en Mission dans un chant qui a pour titre « Je veux te rester fidèle », un chant qui correspond parfaitement au sujet de l'émission du jour. Bonne écoute à toutes et à tous
sur Ebenezer International.
j'ai reçu la liberté de t'obéir pleinement. Je veux pas rester fidèle et te suivre jusqu'au bout. Je veux te rester fidèle et te suivre jusqu'au bout.
C'était le groupe Jeunesse en Mission dans Je veux te rester fidèle. Et c'est sur cette dernière note que nous accueillons nos amis de Bible Ouverte, tout en leur souhaitant la bienvenue sur les ondes de la radio Ebenezer International. Familia Pod, sur Ebenezer International.
Bernard Scheidegger, vous êtes pasteur à la retraite, vous avez 40 ans de vie conjugale derrière vous et vous avez 4 enfants. Permettez-moi tout d'abord une première question indiscrète. Êtes-vous heureux en ménage ?
Oh oui, certainement.
À quoi attribuez-vous cette réussite ?
Eh bien, sans aucun doute à Dieu et pas du tout à nos capacités personnelles, ma femme et moi. Nous n'avons rien de plus que n'importe quel autre couple. La base de notre unité conjugale, c'est Dieu.
Mais alors, que pensez-vous du mariage ou de la vie de famille dans la société actuelle ?
La famille, elle est en grave péril dans notre société moderne. Vous l'aurez constaté, ménages en difficulté, un divorce sur 3 mariages en France et 2 sur 3 dans les grandes villes. Les jeunes mariés étaient sincères, ils s'aimaient, ils espéraient le bonheur. Et c'est un fiasco. Ils tentent de recommencer plus prudemment, tant bien que mal, mais ils ne trouvent pas l'idéal. Les blessures restent. Les enfants paient les pots cassés. Que de jeunes souffrent aujourd'hui de l'échec de leurs parents.
Il faut reconnaître que la vie est peu sécurisante. À l'heure actuelle, il y a du chômage, de l'instabilité, les bases sont bousculées, les jeunes ne veulent plus se marier aujourd'hui.
Oui, tout cela évolue si vite. L'avenir leur est incertain, la peur. Alors, les jeunes essaient, le concubinage. Si ça ne va pas, on se sépare. On recommence ailleurs. Au moins, ça ne coûte rien. En théorie. En attendant, que de frustration, de crainte, de larmes, d'égoïsme. Pour beaucoup, il ne faut surtout pas d'enfants, puisqu'on n'est sûr de rien. Et pour certaines femmes même, on veut bien d'un enfant, mais pas de mari. Déçue, cette femme dira « Oh, c'est pour conserver ma liberté. Quelle utopie !»
Mais Bernard Scheidegger, voyez-vous, vous, une solution à cette situation ?
Oui, oui, j'en suis convaincu, c'est Dieu, comme je l'affirmais.
C'est vite dit, ce n'est pas évident, expliquez-vous.
Mais écoutez, prenez une image. Si vous devez vous faire opérer, il y a 2 conditions pour vous. 1. Être convaincu de la nécessité de l'opération. 2. Faire confiance à votre chirurgien. D'accord ? Il en est de même avec Dieu. Si 2 jeunes veulent fonder un foyer solide, uni, ils doivent être convaincus que seuls, ils n'y arriveront pas, qu'ils n'auront aucune garantie de bien choisir leur partenaire, puis de réussir leur avenir, à cause de la faiblesse de la nature humaine. Ils ont besoin d'une intervention extérieure, l'aide de quelqu'un de supérieur. Donc, ils devront faire pleine confiance au concepteur du mariage, à Dieu, qui sait tout mieux que nous. Là se trouve la base solide, la garantie de l'unité, de l'amour qui tient le coup.
Vous pouvez préciser plus en détail ?
Alors prenons une autre image, elle vous expliquera mieux. Si votre épouse achète par exemple une machine à coudre et que celle-ci a besoin d'un réglage ou d'une réparation, à qui devrez-vous vous adresser de préférence ? Au mécanicien moto ou au garagiste voiture ?
Non, bien sûr, a priori, au constructeur de la machine, au concessionnaire de la marque.
Bon, on est d'accord. Et c'est parce que ce principe d'une élémentaire logique n'est plus observé qu'il y a tant de dégâts dans les couples. Voici ce que Dieu, le Créateur, le concepteur de la famille, a dit en créant le premier homme, Adam. « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Genèse 2, 18 et 24. Vous voyez, Dieu a créé l'homme comme un être social. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu lui a présenté une compagne, un être complémentaire, Ève, son autre moitié.
Quel est le sens de s'attacher à sa femme ?
S'attacher, c'est un verbe qui, en hébreu, a le sens de tenir fermement, s'accrocher à, avec l'idée qu'il n'y a pas de rupture possible. Voyez-vous, Dieu est capable d'unir parfaitement. Il n'est pas du tout d'accord avec le divorce. Dieu supporte et tolère les divorces dans le monde à cause de l'incrédulité des gens. Il ne force personne à lui obéir.
Il est vrai que les divorces, même à l'amiable, laissent souvent des traces douloureuses.
Oui, certainement. D'ailleurs, un jour que l'on abordait Jésus sur la question du divorce, il a répondu, en rappelant l'origine du mariage, « Au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Puis, comme ses auditeurs voulaient défendre la possibilité du divorce, Jésus a ajouté « Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. » Marc 10, 6 à 12.
Mais Bernard Scheidegger, qu'est-ce qui détermine selon vous vraiment un mariage ?
Ce qui fait le mariage, ce n'est pas la cérémonie à l'église, ni les signatures à la mairie. Pour Dieu, dans la Bible, c'est l'union physique du couple. Pour lui, c'est le signe du mariage. C'est pourquoi d'ailleurs, Dieu ne veut pas que l'on joue avec l'acte sexuel. Précisons que de passer par la mairie est juste. C'est l'obéissance, la normalisation envers les autorités, ce que Dieu demande. Ce sera donc le bon ordre, la clarté des faits envers la société.
Et passer par l'Église, alors, n'est-ce pas s'occuper de Dieu, l'incorporer au mariage ?
Je dirais, pour simplifier, qu'on peut distinguer deux cas. Un, devant Dieu et devant leur Église, deux jeunes célèbrent leur union. C'est le témoignage de deux chrétiens envers leur famille spirituelle. Ils ont commencé par demander à Dieu de diriger le choix de leur partenaire. Maintenant, devant leurs frères et sœurs croyants, ils demandent à Dieu sa bénédiction et sa protection sur leur avenir. Ces deux jeunes mariés ont une expérience personnelle avec Jésus-Christ, leur Sauveur. Ils veulent dépendre de lui par la prière et la lecture quotidienne de la Bible. Leur foi est personnelle et profonde. Dieu va l'honorer et les guider. Le mariage devant Dieu et l'Église est donc parfaitement juste aussi.
Et dans l'autre cas ?
Eh bien, dans l'autre cas, beaucoup de jeunes arrivent devant le mariage sans foi personnelle réelle. Ils ne se préoccupent pas vraiment de laisser Dieu diriger toute leur vie. Ils veulent surtout sauver les apparences, satisfaire les rites de leur religion, souvent faire plaisir aux parents pour cela. Ils pensent peut-être qu'une cérémonie religieuse suffira à une bénédiction divine. Le représentant de Dieu est là, la cérémonie se déroule, plus ou moins fastueuse, suffit du bon repas, musique et danse, la fête quoi. Puis, on garde les photos, mais on oublie tout, on fonce dans la vie en tournant le dos à Jésus-Christ. Dieu n'est pas dupe de cette mascarade. Hélas, les résultats sont souvent douloureux.
Mais alors, si un mariage s'est déroulé selon ce schéma et connaît des difficultés ?
Juste. Eh bien, Dieu est toujours prêt à accueillir des épouses en difficulté, secourir un couple qui cherche Dieu sincèrement. Que le couple soit marié depuis longtemps ou même séparée, la seule base d'unité fiable et solide est en Dieu par Jésus-Christ.
Mais selon vous, est-il trop tard si un couple n'a pas une telle base dans son union ?
Alors, voyez, un couple ne s'est peut-être pas du tout occupé de Dieu. Ils se misent ensemble comme ça, à l'essai. Un autre a cru mettre Dieu dans le coup, par une cérémonie religieuse, puis ne s'est plus soucié de Dieu. Laissez-moi vous dire tout de suite, non, ce n'est pas trop tard. Dieu est le Dieu unique d'amour, le réparateur des dégâts. Il est le Dieu du mariage, le créateur de la famille, le sauveur. Marie et épouse peuvent donc venir aujourd'hui ensemble ou séparément à Dieu. Dieu leur dit, « N'est-ce pas moi l'Éternel ? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur. Je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. » Ésaïe 45, 21, 22 et chapitre 48, 17 et 18.
Mais il n'existe pas ici le risque d'une simple unité extérieure ?
Oui, oui, unité extérieure, c'est possible, peut-être assez fréquente. Même si l'on est complètement incrédule, on peut s'aimer, c'est vrai, on décide de s'unir, avoir des enfants, madame s'occupe de son travail, de son ménage, des enfants, le mari lui aide, gagne son pain normalement, chacun fait son effort de caractère, ils mettent tout en commun, installent leur maison, sont sincèrement heureux. Mais l'unité reste superficielle, car il manque la dimension spirituelle à leur union, dimension que Dieu a prévue, a voulu.
Alors justement, Bernard Scheidegger, comment découvrir, comment expérimenter cette entente profonde ?
Eh bien, il faut prendre conscience des trois dimensions de notre être. Quand Dieu dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. » Il y a là beaucoup plus qu'une union simplement physique, sexuelle. Nous lisons tout au début de la Bible. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Genèse 1, 26 et 27. Or, il y a un seul Dieu, mais en trois parties, plutôt en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. De façon similaire, chacun de nous est constitué de trois parties, l'esprit, l'âme et le corps. L'apôtre Paul mentionne cette nature tripartite de l'être humain que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable. 1 Thessaloniciens 5, 23. Dans notre vie, chacune de ces trois parties a sa fonction précise. Le corps permet le contact avec le monde physique, la matière. L'âme permet le contact avec notre prochain par les sentiments, l'intelligence. Enfin, l'esprit permet le contact avec Dieu, notre Créateur. Grâce à notre esprit, nous sommes faits pour concevoir le surnaturel, le monde de Dieu. Ce que ne peuvent pas les animaux, notez-le bien, qui n'ont pas de conscience. Ainsi, l'esprit de Dieu cherche le contact avec l'esprit de sa créature. Il aimerait habiter en nous pour sauver, diriger notre vie, lui donner la force de vaincre le mal.
Mais comment cela se manifeste dans le mariage ?
Ah, oui, ce qu'il y a de merveilleux, et que nous avons justement découvert, ma femme et moi, peu après notre propre mariage, c'est que cette nature tripartite de l'être humain a sa pleine expression dans les liens du mariage. Un triple lien. Par l'esprit, mari et femme peuvent dépendre de l'esprit de Dieu, son amour, sa fidélité, son secours quotidien. Ils peuvent lire la Bible ensemble, entendre ainsi Dieu leur parler et les conseiller. Mari et femme peuvent le prier ensemble. Pour cela, bien sûr, il faut que chacun ait accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel. 1. Et 2. Par l'âme, psyché en grec, notre psychisme nous lie dans le sentiment d'amour, d'échange et de confiance réciproque. Et le lien du corps, troisième partie, permet l'union sexuelle, celle qui engendre des enfants. Homosexuels ou lesbiennes ne peuvent engendrer des enfants entre eux, vous le savez bien. C'est hors du plan et de la volonté de Dieu.
En fait, si je vous comprends bien, la vraie base d'unité, d'unité solide pour un couple, c'est d'être marié à trois et non à deux, Jésus-Christ étant le centre, la raison d'être du couple.
Oui, excellent. On peut dire cela ainsi. Vous constatez, en nous créant, Dieu a prévu un lien qui unit les conjoints à lui-même, ce qui fait toute la garantie, le succès, le bonheur, la force du mariage en Christ. C'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'un couple incrédule, qui semble réussir, être heureux en famille, ne vit qu'une unité superficielle, puisqu'il ne connaît pas la pleine dimension de son mariage, le lien avec Dieu. De plus, en cas de problème, et qui n'en a pas, nous en avons tous, même les chrétiens, le couple incrédule sera seul pour se débattre, alors que le couple qui a Christ comme centre trouvera du secours quotidien. Mais toute personne peut s'approcher du Seigneur aujourd'hui en priant comme ceci par exemple. Pardonne-moi, Seigneur. Jusqu'ici, j'ai voulu vivre sans toi, je me croyais fort et n'en faisais qu'à ma tête. Maintenant, j'aimerais que tu deviennes mon sauveur, que tu prennes notre foyer en main pour le protéger et être son centre, la base de notre unité.
Vous suivez l'émission Familia Pod sur la radio Ebenezer International. Et avant d'aborder la deuxième et dernière partie du programme, écoutons l'artiste Wolf Schneider. Tu seras toujours. Bonne écoute à toutes et à tous. Familia Pod. c'était l'artiste Wolf Schneider sur la radio Ebenezer International à l'heure de l'émission Familia Pod. Comme nous vous l'avons annoncé, c'est le moment d'aborder la deuxième et dernière partie de l'émission. Sans tarder, cédons le micro à nos amis de Bible Ouverte. Bonne écoute.
Merci Bernard Scheidegger de revenir poursuivre nos entretiens. J'imagine que vos 40 ans de vie conjugale vous permettent de nous parler du couple.
Oh non, ce ne sont pas ces 40 ans de mariage, mais bien le Dieu de la Bible qui m'encourage à parler au couple.
Familia.
Un couple heureux est un couple uni. Nous avions vu la fois passée que la seule base solide à cette unité était Dieu. Lire sa parole, le prier, se confier en lui, faire la volonté de Dieu.
Voulez-vous bien nous rappeler le pourquoi ?
Tout simplement parce que c'est Dieu qui a créé l'être humain et qu'il est le concepteur du mariage, le metteur au point, si je puis dire. Il n'y a donc pas de meilleur garant de cette unité. De plus, Dieu est un Dieu d'amour et de paix. Il ne veut pas de divorce. Lui seul peut sauvegarder vraiment l'unité conjugale et en faire un lien profond, heureux, spirituel, dépendant de lui en permanence. Si tel est le cas, alors vous pourrez dire comme le roi David, « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. C'est toi qui m'assures mon lot. » Psaume 16. Cédric, vous êtes marié, est-ce bien là votre désir ?
Bien sûr, confier notre destin à Dieu. Alors de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ?
Eh bien, de la nécessité de cette unité.
Vous avez l'air d'insister. Je sais que l'unité est partout menacée. Y a-t-il des dangers ?
Il y en a plusieurs. C'est là que j'aimerais attirer votre attention.
Alors, disons, quel est le premier, le plus grand des dangers pour l'unité du couple ?
Un ami me racontait ceci. Durant la guerre, pendant la nuit, nous étions toujours deux sentinelles. Non seulement ensemble, mais dos à dos dans nos déplacements, par sécurité, pour éviter les agressions par derrière. Voilà qui montre pourquoi l'unité est si nécessaire, même indispensable, à cause de l'ennemi.
Mais quel est cet ennemi pour le couple ?
C'est Satan. Satan le diable. Comme Dieu est invisible, mais réel, Satan est invisible, mais hélas réel aussi. Il est l'ennemi de Dieu, comme le nôtre. Tout ce que Dieu a créé, Satan cherchera inévitablement à le gâter. Dieu a conçu le mariage, Satan va essayer de lui nuire. La vie conjugale peut être heureuse en Christ, le diable va tenter de démolir ce lien. Vous connaissez le dicton « diviser pour régner » ? Telle est la tactique de cet ennemi. Semer la zizanie dans le couple pour mieux s'introduire, s'imposer, ruiner complètement le foyer. L'apôtre Pierre l'a bien dit, « Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, la foi en Jésus-Christ. » 1 Pierre 5, 8 et 9.
Peut-on juger de la méthode du diable pour nuire à l'unité du couple ?
Oui, oui. Jugez-vous-même de cette méthode. Satan a déjà cherché à nuire au premier couple qui venait d'être créé par Dieu. Le début de la Bible nous décrit comment le diable s'est adressé séparément à Ève, l'épouse, pour demander « Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Genèse 3.1. Dieu a-t-il réellement dit ? Vous voyez, il sème le doute à l'égard de ce que Dieu a pourtant clairement déclaré. Aujourd'hui encore, il introduit la méfiance à l'égard de la parole de Dieu, la Bible, pour nous empêcher de nous y confier, de la lire. Puis, la femme répond à Satan, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Mais, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Versets 2 et 3. Satan rétorque aussitôt par le mensonge, la tromperie. Il veut provoquer d'abord une rupture entre le premier couple et son Dieu, son Créateur.
Effectivement, s'il réussit, le couple sera seul et deviendra plus vulnérable pour être divisé à son tour.
Exactement. C'est pour cela que Satan répond. Il prétend « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Genèse 3, 4 et 5. Le diable camoufle la réalité. Il fait ignorer à Adam et Ève la différence qui subsistera entre eux et Dieu. Dieu connaît le bien et le mal, mais n'est jamais influencé par le mal. Tandis qu'Adam et Ève allaient en être esclaves, sans pouvoir s'en sortir seuls. Comme des anges tombés du ciel qui se souviennent des cieux, mais n'arrivent plus à y remonter. Alors Adam et Ève, séduits, prennent du fruit défendu. Dieu les avait pourtant avertis, leur avait indiqué le bon choix, mais les avait laissés libres de choisir. Dieu ne force personne. Il souhaite l'obéissance du cœur, par amour. Adam, Ève choisissent de désobéir. Puis, angoissés, ils se cachent. Ils sentent leur culpabilité. Ils ont jugé leur Créateur indigne de confiance. Et quand Dieu vient à leur recherche, les questionne, les accusations réciproques fusent. « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé, » dit Adam. Verset 12. Et Ève accuse à son tour « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Verset 13.
Mais qu'est-ce qu'il résulte de tout cela ?
Eh bien, des drames en quantité. Le couple est en court-circuit avec son Dieu. Il est coupable, esclave. Il a peur du grand juge. Le péché est entré dans sa vie avec ses conséquences. Le vieillissement physique et la mort spirituelle saisissent l'homme et sa femme. Les accusations réciproques empêchent l'unité conjugale. La guerre est déclarée entre Satan et l'être humain. La femme enfantera avec douleur. L'homme cultivera le sol à la sueur de son front. Ce sera le point de départ des disputes, du meurtre et des guerres, la naissance de l'esprit de vengeance.
Mais c'est aussi de tels résultats que l'on constate dans notre monde actuel.
À l'évidence. Et si cet être diabolique a employé doute, mensonge, camouflage, division, accusation, il ajoute aujourd'hui à la panoplie tous les instruments modernes possibles. Télévision, matérialisme, sexualité effrénée, amitié trop intime qui mène à l'adultère, ou tout simplement le stress des activités et loisirs exagérés. Mais l'unité du couple, sa foi en Jésus-Christ, fait appel à la totale victoire du Seigneur contre Satan. C'est un ennemi déjà vaincu, voyez-vous, vaincu par Jésus-Christ à la croix.
Bien, maintenant, quel est l'autre danger qui rend l'unité si nécessaire ?
Eh bien, l'unité est indispensable pour former un front unique dans l'amour et l'autorité face à vos enfants. C'est extrêmement important. La vie conjugale et la famille sont la base de la société. Une société dont les familles se désagrègent est en décadence, c'est certain. Cédric, avez-vous vu ce qui se passe chez les enfants dont les parents ne s'entendent pas ? Manque d'amour et de soins ? Couple qui démissionne de ses responsabilités ? Parents gentils, mais trop occupés ? Plus de temps pour les enfants ? Que se passe-t-il ?
Effectivement, tous ces jeunes vont à la rue, déboussolés, fuguent, se droguent ou deviennent délinquants. C'est la violence de demain.
Exactement. Les jeunes n'auront qu'une hâte. Fuir le foyer, suivre les copains, courir l'aventure. Instables, psychiquement traumatisés, ils chercheront des palliatifs. Si ce n'est pas la drogue ou l'alcool, ce sera la débauche, la subversion, voire le suicide. et dans cette unité parentale indispensable, la Bible dit « Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Éphésiens 6, 2 et 3. Cela signifie du même coup, parents, faites-vous obéir et respecter par vos enfants. Ayez un front uni, une même autorité, un même amour envers vos enfants, pour leur bonheur et leur longue vie. Cédric, vous connaissez de ces enfants? Ils ont très vite identifié les faiblesses de leurs parents. Alors, ils savent très bien solliciter maman plutôt que papa, ou l'inverse, pour obtenir ce que leurs caprices exigent.
Oui, je connais cette ruse. Ma femme et moi devons faire attention pour ne pas se contredire l'un à l'autre face à nos enfants.
Nous aussi. Avec mon épouse, nous avons dû bien mettre les choses au point, croyez-moi. Ne pas revenir sur ce que l'autre a fixé. Car si l'unité s'écroule, si nous ne dépendons pas ensemble du Seigneur, notre autorité face aux enfants est détruite. Et ils en profitent. L'éducation des enfants est sabotée par nous-mêmes, pour leur tort et le nôtre. Un des conjoints s'est habitué à contredire l'autre devant les petits. La femme a critiqué l'action du mari. Le mari a autorisé aux enfants ce que la femme venait d'interdire. Le foyer se fissure et va tomber en ruine rapidement. Tandis que la Bible dit « Écoute, mon fils, l'instruction de ton père ». Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête, une parure pour ton cou. Proverbe 1, 8 et 9. Si père et mère cherchent avant tout leur propre unité, avec le secours quotidien de Dieu, ils témoigneront d'un même cœur l'amour et la fermeté de leur discipline envers leurs enfants. Ils démontrent ainsi leur foi, leur unité en Dieu, à toute la parenté, c'est un mur de résistance aux attaques du diable. Et les enfants seront encouragés à obéir et à se confier aussi dans le Seigneur.
Bien, Bernard Scheidegger, peut-on encore citer un autre aspect qui nécessite l'unité conjugale?
Oui, j'évoquerai un dernier. Je vous le fais deviner. Voyez-vous quelque chose de bizarre dans cette déclaration de la Bible, juste après leur création, Dieu dit à Adam et Ève « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Genèse 2, 24.
Bien, Adam et Ève n'avaient pas de parents puisqu'ils venaient d'être créés par Dieu. Pourquoi Dieu parle-t-il de quitter père et mère?
Eh bien, justement, Adam et Ève étaient bien sans parents. Mais Dieu fixe ici un principe général qui devait être vrai pour tout couple de l'avenir. Dieu pressent là un danger pour les générations futures, une situation dont le diable pourrait bien profiter. Pour enlever un problème au jeune couple, Dieu témoigne son amour. Il prend la précaution de les avertir. Alors, vous, jeune couple, pour autant que cela soit possible, ne choisissez pas d'habiter la même maison que vos parents ou que vos beaux-parents.
Vous suggérez donc une rupture avec les parents et les beaux-parents?
Ah non, pas du tout. Ce n'est pas ce que Dieu veut dire, puisque nous venons de lire « Honore ton père et ta mère » Éphésiens 6, 2. Cela ne signifie donc pas rupture, ni manque de confiance ou de respect. Mais Dieu sait que, bien souvent, plein de bonnes intentions, pères et mères s'ingèrent facilement dans le foyer de leurs enfants jeunes mariés sous prétexte d'aider. Et cela engendre souvent des tensions, des discordes, et peut finir par faire divorcer les jeunes couples. Je l'ai vu plusieurs fois. Or, justement, les jeunes couples sont les nouvelles cellules de la base de la société. Ils doivent prendre seuls leurs responsabilités, croître en adultes, s'épanouir en sachant faire face à la vie, envisager les difficultés de front. Cette distance avec les parents n'empêche pas du tout les enfants d'aller demander conseil aux parents, si nécessaire. Ces conseils seront d'autant plus facilement reçus si les enfants sentent que les parents ont su rester distants et respectueux de l'intimité de leur foyer.
Mais si les parents n'ont pas la même foi que leur enfant, et peut-être même n'ont-ils même pas la foi?
Eh bien, cette unité du jeune couple sera d'autant plus importante dans leur témoignage d'amour envers ses parents, pour démontrer que la vraie garantie de bonheur, c'est l'union à trois. Jésus-Christ étant le centre du couple, vous l'avez dit. C'est le secret de leur force devant les difficultés de la vie.
Que peut-on dire donc en conclusion aux mariés?
Eh bien, un conseil. Que vous, les couples, vous preniez vraiment tout le temps voulu pour échanger sur ces trois nécessités de votre unité. 1. Les attaques du diable, qui d'une façon ou d'une autre ne manqueront pas, c'est certain. 2. Votre union indispensable face à l'éducation de vos enfants, un exemple qu'ils voudront suivre plus tard. Et enfin, 3. Face aux autres, la parenté doit sentir en vous le ciment de Jésus-Christ qui vous unit. Vous expérimenterez alors l'exhortation de l'apôtre Paul. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Philippiens 1, 27 et 28.
Familia Pod, la toute dernière pause musicale avec Terry Ostrini, originaire de la Suisse. Bonne écoute.
Je n'ai pas de poliment, pas de promis jurés à te faire. Des mots d'amour aimés avant de tomber, je n'ai rien que peu de foi. Un bout de chemin en moi à refaire. Et tout ce mal que je fais, non je n'ai rien, c'est vrai, mais je n'ai pas peur de le dire. Je n'ai qu'un peu de pain dans mes paniers à t'offrir. Alors prends-le. Tant plus loin d'offrir après moi. Ah, 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 oh. Ne vis pas tes lendemains, plus vide et plus vain que la cendre. Et tous ces rêves longs avant de tomber, ne dis pas je ne suis rien. Mais regarde au bien qu'il faut prendre à pleine main toi. Moi je n'ai rien, c'est vrai, mais je n'ai pas peur de le dire. Je n'ai qu'un peu de pain dans mes paniers à t'offrir. Alors prends-le. 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 Et si ton cœur désire, va t'en plus loin d'offrir après moi.
Familia Pod.
Va-t'en plus loin l'offrir après moi. Prends-le. 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 Yeah, yeah, yeah. Prends-le. Prends-le. Prends-le.
Familia Pod.
Everyday, anywhere, anytime, the Digital Gospel Channel, Ebenezer International, your station.
Fidèles auditeurs, fidèles auditrices de la radio Ebenezer International, voilà qui met fin à cette première édition de Familia Pod. Je dirais première édition modifiée de Familia Pod, puisque nous vous avions déjà présenté d'autres éditions de Familia Pod, mais dans un tout autre format. Avant de clore cette page, j'aimerais remercier toute l'équipe de Bible Ouverte qui a accepté de collaborer avec ce ministère pour le bien-être et la survie de la famille, et particulièrement des couples. Nous en profitons pour envoyer nos plus fraternelles salutations au président de Paroles Certaines, M. François Acuche, sans oublier le frère Robert Bornand, qui nous a aidé à trouver toutes les informations nécessaires dans le cadre de la préparation de ce programme. Je vous rappelle que Bible Ouverte est un site de l'association Paroles Certaines, soutenu par l'Association des Églises Action Biblique de Suisse. Pour en savoir plus, consultez le site www.bible-ouverte.ch www.bible-ouverte.ch et pour tout autre contact, www.bible-ouverte.ch/contact.html. Je reprends, www.bible-ouverte.ch/contact.html. Nous remercions également le groupe Jeunesse en Mission, sans oublier l'artiste Thierry Ostrini pour leur participation à ce programme. C'était pour vous servir, au micro et à la régie, votre ami Doris Thiel Franck, qui vous dit merci de votre écoute et au revoir. C'était Familia Pod, l'émission qui travaille pour le bonheur de la famille et du couple sur la radio Ebenezer International. Digital Gospel Channel.
J'ai reçu la liberté de t'obéir.